officielle des Terres du Milieu.
Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose?
Non, toi?
Pas vraiment, là.
Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là.
Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives.
OK, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatives.
Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet.
OK, d'abord, l'année passée à mon chalet.
Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h, chez 94.
Votre émission Question de savoir, votre émission des étudiants de deuxième et de troisième cycle à l'Université Laval. Je m'appelle Philippe Tremblay, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et on va présenter tout de suite celui qui fait du bruit, Guillaume, qui a changé de place à la dernière minute. D'accord, il n'y aura pas de problème. Guillaume qui est VP aux affaires externes. Salut, Guillaume.
Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour, Nicolas.
Et Nicolas également, Nicolas Pouliot.
Enfin, je vais changer de micro.
Pouliot, qui est VP aux affaires internes. Bonjour, les gars. C'est une émission qui vous est présentée dans cette case horaire, tous les mardis à partir de 11h30, pour vous parler de ce qui touche de près ou de loin l'Allier et les étudiants de deuxième et troisième cycle. Parce que c'est ça, l'Allier, c'est votre association des étudiants de deuxième et troisième cycle à l'Université Laval. La saison achève un peu. C'est presque notre dernière émission normale, si on veut, parce qu'il en reste trois, incluant celle d'aujourd'hui. Donc, les deux prochaines émissions, ce sera... la prochaine émission, ce sera un bilan de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? On revient un peu sur les gains et aussi ce qui s'est passé au courant de cette année, qui a été assez chargée là, à l'Allier cette année pour les étudiants de deuxième, troisième cycle,
ouais,
évidemment.
Beaucoup de projets.
Beaucoup de projets, beaucoup de représentations. On a eu une élection en plus. Donc, vraiment, une élection provinciale, évidemment.
Ouais.
Donc, vraiment plein de choses qui se sont passées cette année. Et l'autre d'après, on vous fera rencontrer le nouvel exécutif parce que cette semaine, en fait, demain, a lieu les élections des membres du comité exécutif de l'Allier. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter. Tous les membres, en fait, sont invités à venir participer à cet exercice démocratique-là. Ça sera à la salle du conseil universitaire. Là, j'ai pas le... Oui, c'est à la salle universitaire du conseil. C'est universitaire, c'est... Dans le caso, vous connaissez le caso, c'est pas facile de s'y retrouver,
non.
Mais on s'arrangera pour que vous le sachiez. De toute façon, sur Facebook, il y a vraiment le numéro du local, donc vous pourrez trouver. Mais je sais que c'est au troisième étage.
Troisième étage, ouais.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Dans le labyrinthe.
Dans le labyrinthe du caso. Dès 19h, on vous attend. Ce sera les élections qui vont commencer. Vous pourrez être là en tant qu'observateur parce que les règles de l'Allier font que c'est le comité d'administration. Le conseil d'administration, qui vote pour les membres au comité exécutif, mais pourrait être là en tant qu'observateur, poser des questions, donc peut-être ainsi aussi soulever quelques points que le comité d'administration n'aura pas soulevé, lui, pendant ses propres questions. Pour cette, donc, dernière émission ordinaire, appelons-le comme ça,
oui, c'est ça.
On voulait vous parler un peu d'un peu plein de choses qu'on voulait peut-être plugger en bon français, mais surtout, en fait, en lien avec la vulgarisation scientifique. On en a parlé quand même un peu lors de nos différentes activités en lien avec la journée de la recherche, mais on prend cette occasion-là aussi parce que demain, il aura lieu le colloque Avenir numérique. C'est un colloque dont c'est la troisième année cette année qui est organisé par l'ITIS et l'Allier en est partenaire. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est vraiment un panorama de la recherche qui est liée au numérique qui sont menées à l'Université Laval. Donc, on permet finalement aux gens d'explorer le numérique, mais à travers vraiment de nombreuses thématiques au fil d'une douzaine de conférences. Puis c'est des courtes conférences d'une quinzaine de minutes. Très étudiants, des étudiants de deuxième et troisième cycle qui vont venir parler de leur projet de recherche ou d'autres projets qui sont liés, en fait, avec leur recherche, mais qui sont liés avec le numérique. Mais là, c'est ça qui est beau avec ce colloque-là, c'est que le fil conducteur, oui, c'est le numérique. Mais on a des gens, oui, qui travaillent directement dans le numérique, par exemple, dans l'ingénierie, par exemple, des choses comme ça. Mais on a aussi des gens qui viennent de la philosophie, la science politique, mais où le numérique a un impact, finalement, dans leur projet, que ce soit dans la méthode, par exemple, de collecte de données dans le projet, ou que ce soit vraiment le sujet principal là, de leur collecte. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est tous des membres de l'Allier qui viennent présenter pendant cette journée-là. D'ailleurs, c'est vraiment une occasion là, de que ces étudiants-là aussi échangent entre eux.
Oui, qui se rencontrent.
Exactement. Puis c'est divisé en différentes thématiques. Donc, vraiment, si vous voulez venir...
C'est quoi les thématiques?
Je ne les ai pas sous les yeux. Malheureusement, c'est des thématiques qui sont assez larges. Mais je vous invite, de toute façon, nous, on a envoyé dans les dernières infolettes de l'Allier, là, si vous voulez retourner, celles qu'on a envoyées hier également, il y a un lien vers le site web de l'ITIS où il y a toute la programmation. Si vous voulez venir voir seulement une conférence, par exemple, ben, vous pouvez, ou seulement une thématique, par exemple. Puis justement, c'est ça, ben, en parlant un peu de ça, on voulait vous parler aussi de d'autres, de l'importance de la vulgarisation.
Ben oui.
Pourquoi c'est important, finalement, vulgariser notre travail en tant qu'étudiant de deuxième, troisième cycle? Avez-vous un essai de réponse? Pourquoi c'est important, les gars?
Si tu veux pas te faire lire, c'est bien correct. Là. Si t'as envie de faire de la recherche pour toi-même, pour ton directeur, et c'est tout, ça, c'est l'idéal. Mais, on parle tout le temps de la tour d'ivoire universitaire. Là. La meilleure manière de briser ce mythe-là, là, c'est de rappeler que le but des recherches, c'est de les vulgariser. Et ce qui est important de se rappeler, c'est cette fameuse citation d'Einstein qui dit que si t'es prêt à l'expliquer ton concept à un enfant de 4 ou 5 ans, c'est que t'as pas encore toi-même bien cerné ton concept. L'importance de la vulgarisation, c'est surtout l'importance des enjeux universitaires. Si on ne réussit pas à les communiquer en dehors des instances universitaires, ben, à quoi ça sert, par exemple, l'importance des changements climatiques, exemple.
Mais si en ce moment, c'est d'actualité.
Exactement, ben, on a une société qui ne sera pas au courant des enjeux, des défis, mais surtout aussi des gros dangers qui s'en viennent. Donc, d'où l'importance de vulgariser à qui mieux.
Puis c'est aussi dans le contexte aujourd'hui où on parle beaucoup de fake news, ces choses-là, quand on arrive avec des recherches et qu'elles sont elles-mêmes qualifiées de fake news par des présidents de puissance mondiale, par exemple.
C'est pas de qui on parle.
C'est important d'être clair dans. Puis je pense dans la méthode aussi. Dans le fond, les gens, ils pensent qu'une recherche, ben, c'est un chercheur tout seul, justement, qui sort des données de ses poches. Et voici, mais je pense qu'aussi, il y a peut-être ce bout-là qui est important de démontrer. Il y a un gros travail qui est fait derrière chacune des choses qui sont présentées, là, justement, dans cette vulgarisation-là.
La direction de recherche, les comités d'éthique pour la recherche, le fait d'approuver le travail, le faire valider en tout temps. Puis surtout, c'est des gens qui, comme tu dis, ils ne sortent pas leurs données de leur poche. C'est des gens qui siègent sur des masses et des masses de données de d'autres chercheurs en général aussi pour aller faire leurs études ou qui vont générer des masses de données pour leurs études. Et là, si tu veux vraiment faire une étude où c'est toi qui produis tes données, ben, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ta boucle d'action. Comparé, par exemple, un travail de recensement de littérature où là, effectivement, la personne est un petit peu plus seule avec un suivi de ses pairs. Mais à ce moment-là, ça a moins d'impact. Elle recense de la littérature déjà produite. Mais
Puis là, corrigez-moi si je me trompe aussi. Quand il y a un article scientifique qui est publié, ben, il y a une approbation des pairs, il y a des comités.
Il y a un comité de sélection qui s'occupe de... Généralement, en tout cas, là, pour que ça soit le minimum crédible, il doit y avoir un comité de sélection qui s'occupe de relever des fois, parfois, certaines faiblesses du texte ou de l'article. Puis il y a comme un jeu de
processus.
Pour parler en latin. Puis, mais sinon, mais ça, puis aussi pour revenir à l'importance de la vulgarisation, c'est aussi. Une façon. Puis, je veux dire, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, comme le disait Guillaume. Tu sais, parfois, les étudiants sont surpris de la difficulté qu'ils ont à vulgariser leurs propos. Ils comprennent bien, mais décloisonner un peu le savoir, c'est pas toujours aussi facile qu'on le pense.
Bien, c'est ça. C'est l'exercice important, pas juste pour le public, la vulgarisation. On oublie souvent ça, mais pour le chercheur, là, être capable de faire cet exercice-là, c'est l'amener à maîtriser effectivement son sujet, non pas juste le connaître, mais vraiment être capable de le vivre. Là.
Puis là, on a parlé un peu de la vulgarisation
écrite.
Mm-hmm. Donc, mais justement, toute cette vulgarisation, comme justement le colloque Avenir numérique le permet, cette vulgarisation orale là, mm-hmm. est aussi oui. importante. Ben puis oui. elle n'est pas pareille. C'est pas juste écrire un texte puis venir le lire devant uh-huh. des gens. Uh-huh. Je pense qu'il y a un contact aussi à avoir avec les gens. Tu sais, c'est difficile parce que les chercheurs n'ont pas tous des compétences à la base, par non, exemple, sur aux communications.
Non, c'est ça. Non. Pour reprendre les propos de célèbres de quelqu'un, le contenant devient aussi important que le contenu.
Oui, clairement.
On fait une petite salutation à Bishop aujourd'hui.
Non, mais c'est il y a des insides. Ouais, il y a des insides, je suis désolé.
Oui, oui.
Mais oui, c'est ça, il faut être capable de ouais. parler, de s'exprimer. Il faut être capable de garder l'attention du public aussi. Parce que pour que le public puisse comprendre, il faut qu'il soit attentif. Pour être attentif, il faut que la personne devant soi... soit intéressante dans la façon dont elle parle. La personne n'a pas besoin de se déguiser pour ça, mais juste dans la façon de l'exprimer, d'y arriver aussi avec une structure claire, c'est souvent des bonnes façons pour bien vulgariser son propos.
Oui, l'ordre des phrases peut être aussi important que la phrase elle-même.
Exact, la structure logique du texte aussi devient importante. Il faut s'assurer de bien... séparer, si on veut, les différentes parties de son discours, en tout cas.
On n'est pas des professionnels, justement, là, de tout ça, mais justement, en participant à des choses comme le colloque Avenir numérique, mais aussi d'autres initiatives qui existent, soit sur le campus ou en tout cas au niveau pan-québécois. Par exemple, ma thèse en 180 secondes, qui est comme le plus connu, je pense, qui est fait par l'ACFAS, c'est un concours. Là,
après
donc,
après Cogito.
Évidemment, après Cogito, on revient avec Cogito, là. Oui, une grosse place après, mais je voulais quand même ne pas taire ce que la phase fait. Donc, ça permet vraiment aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples à un éditoire justement qui est profane et qui diversifie. 180 secondes, c'est combien de minutes déjà ça?
C'est 3 minutes.
3 minutes, c'est pas ça, beaucoup. 3 minutes, 3
fois 60.
C'est
donc, 3
minutes, c'est
selon
très...
mes derniers calculs, c'est 3
selon,
minutes.
Oui, on me dit à l'oreille que l'horloge internationale. National.
Ouais. c'est rapide.
C'est extrêmement
c'est une
rapide.
C'est une chanson.
C'est, ouais. Puis c'est même plus court que certaines choses qu'on écoute. C'est complètement fou. Donc, cet exercice-là puis vient souvent aussi avec quelques formations que l'ACFAS offre aussi. Ouais. Donc, vraiment un accompagnement. Donc, si vous voulez justement vous lancer, ben pourquoi pas, allez-y. Ne serait-ce que faire le dossier de départ, même si vous n'êtes pas sélectionné. C'est une belle expérience, je pense.
Ouais. Oui, c'est qu'on dit y aller à l'essentiel, ben c'est ça. On peut pas aller plus à l'essentiel que de présenter une thèse en 3 minutes. On met dans la même situation finalement que dans les dîners de famille, dans les soupers de famille.
Oui, clairement.
Genre, bon, qu'est-ce que tu fais? Puis là, t'es comme, bon, OK, il faut que je me trouve une réponse. Puis là, tu tentes d'expliquer en 3 minutes ou moins.
On parle souvent aussi de c'est peut-être plus dans le domaine un peu quand on fait de la représentation, mais c'est un peu la même chose, des discours d'ascenseur.
C'est un peu la forme du discours d'ascenseur, mais pour la recherche, exactement.
Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Ben, c'est juste que parfois d'être capable de faire une prise de contact et de transmettre un message dans un ascenseur. Parfois, quand on rencontre les gens, ça vient de ces moments-là où on n'était pas juste sur nos selles pendant qu'on était dans l'ascenseur.
Non, c'est ça.
D'une autre époque. Puis l'ACFAS, justement, offre des formations aussi qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec ma thèse en 180 secondes, notamment une formation qui va avoir lieu le 26 avril prochain. Là, vous retrouverez ça également dans notre infolettre.
À partir de midi.
Exactement, c'est de midi à 14h. Une formation sur le reportage vidéo. Ça aussi, c'est une autre façon de vulgariser, de présenter ces résultats de recherche.
On le voit de plus en plus. Là. Il y a aussi maintenant la montée des podcasts sur la
recherche également. Oui.
J'avoue que je ne m'y intéresse moins, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en explosion en ce moment.
Exactement. La vie du podcast. Peut-être que d'ailleurs vous nous écoutez en podcast en ce moment, qui permet d'écouter ça un peu en faisant autre chose.
C'est ça, d'écouter d'une oreille puis de faire autre chose avec l'autre oreille. Mais ça permet aussi toute la question du reportage vidéo de le publier sur les réseaux sociaux.
Exact,
je pense que
c'est ça
que les chercheurs se sont rendus compte que l'information devait être transigée par les réseaux sociaux. Fait que le meilleur médium, c'est un des bons médiums, c'est de faire des courts capsules vidéo puis de les partager.
Exactement.
Pour le Facebook puis tout ça là.
C'est ça.
Instagram. Parlant d'ailleurs de vidéo, ben là justement on voulait parler de Cogito,
le plus grand concours de vulgarisation.
Exactement, le plus grand concours à l'Université Laval en tout cas, qui vous permet en fait de qui permet aux membres de la Ligue de se retrouver dans une émission de télé.
Oui, c'est ça, exact.
C'est un peu une télé-réalité, non?
Une genre de télé-réalité. On veut... Non, puis, tu sais, tantôt, on parlait bon, de la 180 dans ma thèse en 180 secondes, on parlait de 3 minutes. Tu sais, bon, certains vont apprécier, certains vont aussi moins apprécier de se faire demander de résumer en 3 minutes leur thèse. Ouais. Cogito, c'est un peu le même concept, mais plus long. Ben, c'est pas non plus le même concept que des questions. C'est vraiment différent, en fait. Mais la personne a plus de temps pour vulgariser sa recherche. Puis là, c'est ça, les épisodes.
Ça ressemble à quoi, un épisode de Cogito, par exemple?
Un épisode du format Cogito, de l'ancien format Cogito, parce qu'on en reparlera après, mais il est en cours de...
Mais vous allez avoir des nouveaux épisodes avec ce format-là, ce printemps-là.
Exact. Ben, le format, c'est... Bon, tout d'abord, les étudiants, en fait, sont deux étudiants qui se font interviewer en même temps par une animatrice. Les capsules ont été filmées au foyer. Et puis, donc, l'animatrice pose des questions aux étudiants sur leur recherche. Les étudiants, entre eux, se posent des questions, interagissent entre eux aussi. Puis c'est des étudiants qui sont dans... Toujours, on s'assure d'avoir des étudiants qui sont dans deux domaines complètement différents. Donc, il y a comme un enrichissement aussi dans la discussion entre les deux. Puis, la personne... à travers une discussion très relaxe autour d'un bar, ça, explique sa recherche. Exact. Puis les vidéos ensuite sont diffusées sur YouTube. C'est environ une trentaine de minutes.
C'est une trentaine de minutes, mais je pense que ça revient à 20 minutes, là, parce qu'il faut compter les pauses, en tout cas, entre 20 et 30 minutes, un épisode. Et c'est ça qui est le fun aussi, d'avoir quelqu'un qui... Ben, évidemment, il y a l'animatrice qui sert à ça également, mais d'avoir quelqu'un néophyte, là, quelqu'un qui
joue
en face
grand public,
de soi,
là,
qui joue un peu le rôle du grand public, les questions que nous, on se pose peut-être en écoutant aussi ces émissions-là. Donc, justement, on aura 8 épisodes qui seront diffusés ce printemps. Je pense que ça va commencer dans les prochaines semaines. Là. Je pense que ça sera mai-juin.
Ouais, exact,
c'est ce qu'on s'était dit. Donc, mi-juin, 8 épisodes, un par semaine, qu'on va vous présenter sur les réseaux sociaux. Suivez la page de l'Ali, évidemment, la page de la chaire publique également. Et il y a un nouveau, d'ailleurs, ben là, on ne peut pas trop en parler, en fait, là, mais justement, Cogito est en train en ce moment de se transformer.
Exact,
le la chenille deviendra papillon.
Comme tu le disais tantôt, Philippe, c'est que, bon, au départ, Cogito, c'est un format télé.
Oui, c'est diffusé au Canal Savoir.
Exact.
En fait.
Donc, le format est un format télé. Donc, la durée, la façon dont c'est filmé, tout si on veut, la facture numérique est très télé. Et puis, on a testé, comme un peu tous les médias le font maintenant, de s'adapter aux nouvelles réalités numériques, c'est-à-dire à l'apparition des réseaux sociaux et de YouTube. Donc, on a voulu faire de Cogito transformer en un format web, style qui s'adapte un peu, qui correspond plus au style des YouTubers actuels, puis de la façon dont ils vulgarisent la connaissance. Donc, beaucoup plus, moins long. Donc, on parle ici des capsules d'une dizaine de minutes, avec une présence, avec un style plus léger aussi, donc un peu moins sérieux, question d'être encore plus accessible au grand public. Puis, le rôle aussi de l'animateur est maintenant différent. Il y a des éléments visuels. En fait, on a l'impression de regarder vraiment plus comme un vidéo vulgarisation, comme on le retrouve sur YouTube, avec le YouTuber classique qui parle d'un sujet. Là, à ce moment-là, bon, c'est Serge qui parle d'un sujet avec l'étudiant invité. Et puis, bon, comme je le dis, il y a plein d'éléments.
On essaie de rendre ça dynamique, en fait, sans trop en dire. Sans trop en dire. On ne vous dira pas le nom, je pense, parce qu'on n'est pas sûr encore. Ça va changer. On change de concept, tout simplement. Mais l'objectif reste le même. C'est de présenter les travaux de recherche de nos membres, des membres de deuxième, troisième cycle. D'ailleurs, si ça vous allume un peu ce qu'on vient de vous dire là, restez à l'affût parce qu'on va faire appel à vous, chers membres de l'ALI. On va avoir besoin de gens qui vont venir présenter leur projet de recherche. Et ça va se passer sûrement à l'automne un peu plus, mais peut-être pendant l'été. Restez vraiment à l'affût.
Il y a des prix à gagner.
Oh, il y a des...
C'est ça,
ça reste un concours.
Ça reste un concours.
Je sens qu'on attire l'attention de plus de gens, là, soudainement.
D'ailleurs, des prix peut-être même en argent, en bourse, peut-être. Donc, parlant justement, je fais un lien avec ce dont on se parlera après la pause musicale. On a parlé de la vulgarisation scientifique aussi, d'aller un peu partager... d'aller partager son savoir, ben on va vous offrir, on va vous dire un peu les outils que l'Allier peut vous offrir, en fait, pour faire ça. Mais avant, on va écouter une petite chanson de Danny Placard.
Cesse de parler, je t'en supplie. Je voudrais rester seul. On sait que la nuit est en notre audit. quand le jour se forme l'ailleurs. Je mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. Je fais du vacarme pour te faire peur. Ah, même si
question de savoir votre émission des étudiants de deuxième et troisième cycle à l'Université Laval. Merci d'être avec nous pour terminer cette émission. On va jaser avec vous un peu des services qu'on a, en fait, on va parler de cash.
On parle de cash.
D'aide, oups,
comment sauver oublié, je pense, du cash,
de, surtout. Le bon. OK, est-ce qu'on entend Nicolas?
Un, deux, un, deux.
Ben, il faudrait que tu parles. Ah, quelle bonne blague!
Yes.
Super.
Oui, on parle de cash, qu'après tout, c'est ce que les étudiants veulent entendre. Hein? dans ces questions d'argent, là, les gens tendent l'oreille.
Oui, exactement.
Mais, c'est un peu
pour justement attirer votre attention.
C'est ça. Que serait l'allié sans les bourses et subventions?
Beaucoup de choses.
Ben, c'est ça, mais on offre ce service-là qui est un de nos gros, tu sais, un de nos services importants qu'on offre.
Ouais.
On offre différents. Oui, vas-y.
J'allais dire qui fait une différence aussi là, dans le parcours. Ça va faire une grosse différence parce qu'évidemment c'est des bourses, on parle pas de bourses de milliers de dollars,
non, c'est intéressant,
mais on essaie d'en donner au plus de membres possible aussi, exact. Donc c'est des petits coups de pouce, on appelle ça des petits coups de pouce, des petites tapes dans le dos pour vous permettre de faire des projets un peu spéciaux là. Tout d'abord la subvention pédagogique qu'on appelle, qui est ça, c'est pour un coup de pouce donc pour vos stages, voyages d'études ou vos communications. Donc c'est vraiment les membres de l'Allié qui peuvent présenter c'est pas un très gros dossier, je pense, présenter.
Ben là, surtout pour ceux qui font des communications, là, tout ça, on a beaucoup simplifié le processus. Maintenant, okay. Là, ça fonctionne par grille tarifaire en fonction de l'endroit où vous allez dans le monde.
Exact. Fait
que c'est un montant fixe qui est versé dépendamment du lieu où vous allez. Fait que c'est rendu beaucoup plus simple, vous n'avez plus de budget.
Donc, ça peut être présenter une communication, par exemple, dans un colloque, dans une conférence, dans des congrès scientifiques ailleurs dans le monde aussi. Parce que justement, on vous donne des sous dépendamment de où est-ce que vous vous rendez. Aussi, ça peut être un voyage d'études. Par exemple, on a des gens qui vont faire leur terrain. Utilisent les subventions pédagogiques.
Oui, comme on a eu un cas justement.
Oui, bien en ce moment, en fait, on est un peu en campagne là, pour justement faire mousser ça. On aime donner des sous. Donc, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, les cas qu'on vous présente. Les cas. Mon Dieu, ça a l'air d'un problème. Ça. Non, mais les gens qu'on vous présente, c'est des gens qu'on a communiqué, avec qui on a communiqué pour leur dire bon, c'est quoi votre expérience avec les subventions pédagogiques? Donc, par exemple, il y a un étudiant qui s'appelle Sidi qui est allé faire. Par exemple, son terrain, lui, en archéologie au Sénégal. Donc, puis ça lui a donné un petit coup de pouce. Donc, c'est ça pour les subventions pédagogiques. Y a-t-il d'autres choses? Ah oui, ça peut être un stage également.
Oui, c'est ça, c'est important. Stage, voyage d'études ou participation à un colloque ou donner une conférence.
Exactement.
Puis c'est pas juste financier, n'oubliez pas. C'est bon pour le salaire niaiseux, mais c'est bon pour le curriculum vitae de l'étudiant qui ensuite veut cumuler d'autres demandes de bourses ou subventions pour le même genre d'événement. Quand que organismes ou un institut de recherche voient là, que l'Allié a financé, ça les rend plus confiants, effectivement, de reproduire ce genre de subvention, bourse et commandite.
Parfait. Le deuxième, c'est la bourse pour les étudiants internationaux en précarité financière.
Exact. Donc, ça, c'est une plus grosse tape dans le dos. Puis c'est pour les étudiants, spécifiquement pour les étudiants internationaux, hein, parce qu'on le sait, à l'Allié... c'est près d'un tiers de nos membres qui sont des étudiants internationaux. Fait que ça représente, selon les dernières estimations, 3600 personnes. Donc, pour les étudiants internationaux qui sont en situation de précarité financière, on leur offre un montant, le maximum de 500 $. Les dates limites, étaient le 20 octobre et le 20 mars. Donc, deux fois par année.
On fait ça, puis évidemment, on va vous en reparler la session prochaine quand ça sera le temps de présenter pour cette bourse. Finalement, il y a les autres commandites, qu'on pourrait appeler, qui sont il y a les commandites internes et externes. Là, ça, c'est un peu, en fait, là, si vous organisez des activités, par exemple, ou votre association ou un organisme que vous connaissez qui est sur le campus, qui fait une activité qui s'adresse aux membres directement ou indirectement.
C'est ça. Une activité pédagogique le plus souvent.
Oui, exactement. Ou parfois de réseautage, dépendamment. Ça, c'est vraiment à la pièce. Donc, vous faites des demandes, puis nous, on regarde. Mais dans ces subventions-là, il y a des subventions pour publication qui peuvent être très intéressantes. Là, si vous êtes, par exemple, une association ou un regroupement d'étudiants qui est formé, donc de membres qui sont inscrits à l'Université Laval et que vous voulez faire une publication, par exemple, une revue, je ne sais pas, des étudiants de deuxième, troisième cycle en sociologie, par exemple, ça existe peut-être, là, j'ai lancé quelque chose dans les airs, bien, vous venez nous voir, puis on peut vous aider également pour ce type de projet-là. Finalement, tous les projets qui sont à nature le plus possible académique. Venez nous voir, on va voir ce qu'on peut faire, puis vous mettre peut-être dans une de ces cases-là. Puis si c'est pas possible, peut-être même qu'on pourra vous référer à un autre financement qui est disponible.
Donc, il n'y a pas peur de nous, là, si on voit que le projet, malheureusement, ne répond pas aux critères là, pour pouvoir être accepté. T'sais, on va essayer de trouver la manière de trouver une alternative pour le projet ou quelles autres ressources, en dehors de peut-être l'Allié, peuvent servir ces étudiants-là. Et étudiantes, pardon.
Voilà, ben écoute.
Il y a beaucoup d'argent qui, tu sais, je veux dire, faut préciser ben, oui. que ce fonds-là dédié au financier, oui. au soutien financier, c'est important de que, tu sais,
on a encore beaucoup d'argent à dépenser. C'est ça, exactement.
N'hésitez pas à faire des demandes.
Exactement. Et c'est ça. Venez nous chercher des sous pour.
Ça coule. On en a trop. Ouais. C'est plus quoi en faire.
C'est pas trop ça, Nick. Là.
Non, je tiens à rappeler aux étudiants, le but, c'est de dépenser les montants qui ont été prévus cette année. Alors, n'hésitez pas. La maison voilà. Marie-Sirois, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est la petite maison très charmante avec le logo de l'Allier juste en face du pavillon des Jardins.
Oui, c'est ça. C'est derrière l'arrêt d'autobus. Donc, venez nous voir. Et ben, c'est ce qui termine notre émission de Questions de savoir. Merci les gars d'avoir été là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, bilan de l'année. Alors, on essaiera d'avoir le plus de membres du comité exécutif possible autour de la table. Pourquoi pas faire un beau petit party. Donc, bilan de l'année.
Ça, c'est le moment où on se plante des couteaux dans le dos pour dire qui a mal fait sa job.
Non, c'est le moment où on se flatte.